Europe 1. Europe 1,
14h, 15h,
on de la traconte.
Bonjour à tous, je vous raconte aujourd'hui la grande saga de la mission Apollo 13 en 1970, la troisième mission américaine en direction de la Lune. Vous avez peut-être vu le film qui a été tiré de cette histoire en 1995 de Ron Howard avec Tom Hanks, Kevin Bacon et Bill Paxton. C'est l'histoire d'une mission vers la Lune qui vire au cauchemar après une explosion à bord. Les trois astronautes n'auraient en toute logique pas dû s'en sortir. L'explosion a eu lieu trop loin de la Terre. Mais justement, c'est le fait d'être proche de la Lune qui les a sauvés tous les trois. C'est une histoire formidable que nous allons débriefer tout à l'heure avec l'un des meilleurs connaisseurs de l'histoire de la conquête spatiale. Bonjour Philippe Hénard-Réjos.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef de la revue de référence qui s'appelle Ciel et Espace et vous serez précieux tout à l'heure pour compléter mon récit qui est forcément un peu simplifié. Voici donc cette histoire, Apollo 13 en perdition dans l'espace. Je l'ai écrite avec Quentin Mouchel, réalisation de Céline Lebras.
Christophe Ondelat.
Nous sommes le 11 avril 1970 à Cap Kennedy, en Floride, la base de lancement des fusées américaines. Il est un peu plus de 13h et dans quelques minutes, la troisième mission Apollo vers la Lune va décoller. Le premier pas de l'homme sur la Lune est encore tout frais, tout frais. C'était il y a 9 mois, Apollo 11. Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Et depuis, il y a eu Apollo 12, il y a un peu plus de 4 mois. Deux astronautes ont marché sur la Lune pendant 7 heures et 45 minutes. Et là donc, c'est Apollo 13 qui est sur le pas de tir. Le long cylindre blanc du lanceur Saturne 5 posé sur ses 5 réacteurs. Et tout en haut, pointé vers le ciel. L'habitacle du vaisseau, pas plus grand que le cockpit d'un gros avion. Et là-dedans, ils sont 3 hommes, harnachés dans leur combinaison, avec leur casque façon bocal à poisson rouge. Je vous les présente. Alors je commence par le commandant. James Lovell, 42 ans. Un vétéran de la conquête spatiale. C'est sa 4e expédition dans l'espace. Il était à bord de Gemini 7, de Gemini 12 et d'Apollo 8. La première fois qu'un engin spatial a quitté l'orbite terrestre. Mais il n'a jamais marché sur la Lune. Ce sera le couronnement de sa carrière. Parce que lui, il va descendre. À côté de lui, il y a Fred Hayes, 36 ans. Lui aussi, il va descendre. Et pourtant, c'est son premier voyage dans l'espace, le chanceux. C'est lui qui va piloter le LEM, le module qui ira se poser sur la Lune et qui se détachera du vaisseau principal. Et puis, il y a celui qui ne va pas descendre. C'est le sale rôle. Il en faut un. Lui, pendant que ses 2 copains marcheront sur la Lune, il va rester dans le vaisseau spatial et il va tourner autour de la Lune et attendre leur retour. Lui, il s'appelle Jack Zweiger. Il a 38 ans. Des petits yeux bleus farceurs, c'est le playboy du trio. Les trois astronautes sont harnachés face au tableau de bord. 500 boutons face à eux. Ergonomie grossière. De gros boutons, de grosses molettes qu'il faut pouvoir manipuler avec de gros gants. 13h12. Par le hublot, Lovell, Hayes et Zweiger aperçoivent le ciel au-dessus de la Floride. Bleu clair. Façon de dire « Welcome, les gars ». 13h13. La voix du directeur de vol Gene Kranz, qui suit le lancement depuis la base de Houston au Texas, crépite dans l'habitacle.
Attention. Dites-moi si vous êtes prêt.
Affirmatif. Le compte à rebours est lancé.
10, 9, 8. Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
We have commit. We have liftoff at 2:13. The Saturn V building up. 7.6 million pounds of thrust, and it is clear the tower.
Et la fusée s'arrache du sol dans une gerbe de feu, un vrombissement du tonnerre. On dirait un tremblement de terre. Et elle s'élève lentement. Pour l'instant, tout va bien. Mais après 7 minutes de vol, un voyant rouge se met à clignoter sur le tableau de bord.
Houston, vous pouvez nous dire ce qui se passe ?
Apollo 13, on ne sait pas. Le moteur a été coupé à l'avance.
C'est donc le réacteur central qui a rendu l'âme. Il aurait dû tenir 2 minutes de plus. Il ne reste donc que 4 réacteurs, mais ça ne panique personne.
Apollo, c'est certainement lié à la pression dynamique. Vous pouvez poursuivre la mission, les 4 autres moteurs sont OK. On prolonge leur propulsion pour compenser à vous.
Bien reçu.
Lovell, le commandant, se tourne alors vers Hayes et Swigger, petit sourire au coin des lèvres.
Hey les gars, il fallait une tuile, ben ça y est, on l'a eu.
S'ils savaient la tuile qui les attend.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui la mission Apollo 13 en avril 1970, le 3e vol de la NASA en direction de la Lune. 9 mois après le premier pas de Neil Armstrong, la fusée vient de décoller de Cap Kennedy. Au bout de 7 minutes, l'un des 5 réacteurs, le réacteur central, tombe en panne. Mais depuis Houston, au Texas, le chef de vol considère que les 4 autres réacteurs devraient suffire. La mission se poursuit. Pour débriefer cette histoire tout à l'heure, j'ai invité Philippe Henarejos, le rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace. Et maintenant la suite, la tuile, reste à venir. Apollo 13 a quitté l'orbite terrestre et file tout droit vers la Lune. En quittant l'atmosphère, la fusée a perdu son lanceur, sa queue, qui est retombée dans l'océan. Et juste après, les 3 astronautes ont fait sortir le LEM, le module qui va descendre vers la Lune, de la soute où il était enfermé. Et maintenant, le LEM est accroché devant eux, relié au vaisseau par une sorte de tunnel, le module de commande. Et derrière, ils ont encore un module accroché, le module de service, dans lequel sont placés les moteurs, les réserves d'oxygène, l'hydrogène, les batteries, tout ça relié au vaisseau par des tuyaux. Les 3 astronautes n'y ont pas accès. Bref, on pense toujours à la fusée de Tintin, mais imaginez plutôt de gros bidons accrochés les uns derrière les autres. Pour les 3 astronautes, ce moment où ils quittent l'orbite terrestre, qui nous condamne, pauvres humains, à avoir la tête en haut et les pieds en bas, est absolument magique. Ils basculent en apesanteur. Et là, c'est la colonie de vacances. Et vas-y que je te laisse échapper de leur emballage des gouttes d'eau pour aller les gober ensuite à pleine bouche, que je te lance des objets, que je te fais des cabrioles, des gamins. Remarquez, ils ont du temps devant eux. Le trajet vers la Lune dure 4 jours et pour l'instant, ça se passe avec la sérénité d'un vol de croisière.
Effectivement, les astronautes ont été réveillés il y a quelques instants. James Lovell, Fred Hayes et Jack Swigert ont dormi 10 heures pendant que leur véhicule poursuivait sa route en direction de la Lune. À 19h13, heure de Paris, le centre de Houston les a sortis d'un profond sommeil. Les communications ont alors repris entre Apollo 13 et la Terre, pour la checklist notamment. Il s'agissait d'effectuer les vérifications d'usage de la routine en quelque sorte, car tout s'est passé normalement.
L'équipage est en contact H24 avec les équipes de contrôle au sol à Houston. On pourrait imaginer que les discussions sont techniques, et uniquement techniques. Eh bien, pas du tout. Ça parle technique, oui, mais pas que.
Salut à vous, Houston. Ici 13.
Oui, 13, ici Houston, à vous.
Dis-moi, Joe, quelles sont les nouvelles du jour ?
À Houston, Joe Kerwin attrape le journal.
Alors, il y a eu des tremblements de terre à Manille et dans d'autres secteurs de l'île de Luzon. Le chancelier Willy Brandt et le président Nixon vont boucler une série d'entretiens cet après-midi. Quoi d'autre ? Ah oui, les contrôleurs aériens sont toujours en grève.
Et en se marrant, il ajoute :
Mais pas de panique, hein, les gars. Les contrôleurs de Houston sont à leur poste. Au fait, les gars, vous avez pensé à votre déclaration d'impôt ?
Et là, Swigert attrape le micro.
Oh merde! Les impôts! Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un délai?
T'inquiète pas, va. La tenue du jour, c'est pas le costume rayé de détenu. Hein? C'est la combinaison spatiale de héros.
Le 13 avril, ça fait 2 jours, 55 heures, qu'Apollo 13 a décollé de Cap Kennedy. Le vaisseau est maintenant à 320 000 km de la Terre et 60 000 km de la Lune. Et là, je vous propose de les laisser voguer dans l'espace et de redescendre un peu sur Terre. C'est la troisième mission sur la Lune, 9 mois après le premier pas. C'est tout frais. Alors, est-ce que ça passionne les Américains, cette histoire d'Apollo 13? Eh bien, pas tant que ça, figurez-vous. Les Américains sont blasés, déjà. Peu de chaînes de télévision ont interrompu leur programme pour retransmettre le lancement. Si, il y a un truc qui passionne les gens. Le chiffre 13, Apollo 13. La fusée a décollé à 13h13, souvenez-vous. C'était le 10 avril 70, 10 04 70. 1 plus 4 plus 7 égale 13. Ça vous embauche un coin, hein? Et le vaisseau est entré dans le champ gravitationnel de la Lune le 13 avril. Mauvais augure. Moi, je n'y crois pas, hein. Je vous rassure. Enfin, pas encore. On remonte là-haut? Là-haut, les trois astronautes ont sorti des caméras pour tourner quelques images pour les journalistes, s'ils en veulent, et surtout pour leurs femmes qui les regardent en bas. Le commandant Lovell commence par faire la visite.
Salut tout le monde! Alors voilà ce que nous allons faire. On va partir de notre vaisseau, qui est le module de commande qu'on a baptisé Odyssée, et puis on va aller jusqu'au vaisseau lunaire qu'on a appelé Aquarius. Vous me suivez?
Et puis c'est Eyes qui prend la parole.
Regardez bien, vous qui êtes sur Terre. Là, sous les pieds de James, il y a le moteur ascensionnel du LEM, c'est celui que nous utiliserons pour décoller de la Lune. Et puis là, cette boîte blanche, là, c'est le sac à dos de James qui fournira l'oxygène pendant qu'il marchera sur la Lune.
Et il montre comme ça, un par un, tous les instruments. Et par le hublot, Lovell filme maintenant la Lune, en gros plan, laiteuse. On voit très bien ses cratères. Et ça dure comme ça une quarantaine de minutes. À 21h50, Houston demande aux trois astronautes une manœuvre de routine.
13 pour Houston. Il faudrait faire un brassage de cryo, messieurs.
Les cryos, ce sont des gaz, l'oxygène et l'hydrogène, qui sont stockés dans 4 réservoirs du module de service. Ce sont ces gaz qui fournissent l'électricité, l'eau et la chaleur. Et de temps en temps, avec un petit ventilo, on les brasse, on les mélange. Swigert enclenche donc le brassage de cryo. Et là, 16 secondes s'écoulent. Swigert est attaché à son siège face au tableau de bord. Lovell flotte dans le module. Et Hayes se trouve dans le tunnel du vaisseau lunaire. Et soudain, boum! Un gros bang, un coup de tonnerre. Le vaisseau tressaille. Lovell appelle le centre de contrôle.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui la mission Apollo 13 en avril 1970, le troisième vol de la NASA en direction de la Lune, 9 mois après le premier pas de Neil Armstrong. Nous allons débriefer cette histoire tout à l'heure, je vous le signale, avec Philippe Hénarijos de la revue Ciel et Espace. Je vous ai raconté le décollage de Cap Kennedy. La première avarie, une panne du réacteur central qui n'a pas empêché la mission de se poursuivre. Et nous en étions à un moment crucial de cette histoire. À l'approche de la Lune, les équipes au sol ordonnent une opération de routine sur les réserves d'oxygène et d'hydrogène, qui déclenche une explosion spectaculaire. Ici Houston. Répétez.
On a eu une grosse explosion et les voyants sont allumés.
Les ingénieurs au sol regardent leur écran. Les paramètres de vol sont sans queue ni tête. Tout est en rouge et a priori, c'est grave. Les circuits électriques sont hors d'usage. Ils se disent, c'est pas possible, ça doit être l'ordinateur, c'est une panne informatique. Le plus inquiétant, c'est l'indicateur des réserves d'oxygène. A priori, le deuxième réservoir est à sec. Et il y a un problème avec les batteries aussi. Sur les trois batteries qui alimentent le vaisseau, deux seraient HS. À bord, le commandant se dirige alors instinctivement vers le hublot. Il y a comme un nuage de gaz autour du vaisseau. Un gros nuage de gaz d'au moins 1000 mètres de diamètre. Ça sort du vaisseau.
Houston, j'ai l'impression qu'on a une fuite, vers l'extérieur. Nous sommes en train d'évacuer quelque chose dans l'espace. C'est du gaz, je crois.
Et là, panique au centre de contrôle. C'est l'oxygène. C'est de l'oxygène qui fuit. C'est forcément de l'oxygène. Et c'est pour ça que les ordinateurs indiquent que le deuxième réservoir d'oxygène est à sec. Il a explosé. C'était ça, l'explosion. Lovell pousse Weiger du coude.
Regarde la jauge du réservoir 1.
Elle est en chute libre. Et là, il faut aller très vite. Parce que bientôt, il n'y aura plus du tout d'oxygène. Plus d'oxygène du tout. Ils vont mourir. Ils vont tous mourir. Il n'y a qu'une seule issue. Le LEM, le module lunaire, il est autonome en oxygène. Il a ses propres réserves. Pour deux personnes, bien sûr. Pas plus. Il n'était pas prévu qu'ils entrent à trois là-dedans.
Apollo 13, ici Houston. On a une mauvaise nouvelle ici. Il ne vous reste que 15 minutes pour transférer les commandes au LEM.
15 minutes. Un quart d'heure pour se réfugier dans le LEM et y transférer les commandes du vaisseau. 15 minutes, après ils seront morts. Un autre compte à rebours a commencé. 10 minutes s'écoulent.
13, we'd like to have you put thruster Alpha 3 on main A, please.
Alpha 3 on main A. Okay, Jack, are you monitoring the quad temps and quad A? Package temps?
Affirmative.
Mais ça y est, Lovell, Swigger et Eyes ont réussi à se réfugier dans le LEM. Ils sont sauvés. En tout cas pour l'instant. Parce qu'à ce moment-là, une réalité s'impose. Le vaisseau est inutilisable. Ils sont à trois dans le module lunaire. Ils n'iront pas sur la Lune. C'est fichu. Et maintenant, il n'y a plus qu'une seule issue. Une seule. Revenir sur Terre à bord du LEM. À bord du module qui devait emmener deux d'entre eux sur la Lune. Le LEM est-il capable de les ramener jusqu'au seuil de l'atmosphère ? À Houston, la NASA appelle en urgence tous ceux qui connaissent la machine, et notamment tous les astronautes des précédentes missions.
Les gars, on n'a jamais perdu un Américain dans l'espace. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Il faut trouver le moyen de les faire rentrer avec le LEM. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à suggérer ? Il faut qu'ils fassent demi-tour et qu'ils enclenchent les réacteurs du LEM direction la Terre. C'est la seule chance. Mais enfin, c'est pas possible. Les réacteurs du LEM ne sont pas assez puissants. Et quand il n'y aura plus de carburant, ils seront aspirés par l'attraction lunaire. Ils vont finir écrasés sur la Lune.
il leur faut 2 heures pour mettre au point le seul plan possible, le seul, sans garantie de réussite.
Apollo 13, vous allez modifier votre trajectoire. Vous allez faire le tour de la Lune et vous servir de l'effet gravitationnel pour regagner la Terre. Vous allez rentrer avec un effet de fronde, ok ?
Entendu. Dit comme ça, ça paraît simple. Faire le tour de la Lune et profiter de l'effet gravitationnel pour prendre de la vitesse et lancer le LEM vers la Terre. Un peu comme un panier à salade envoie des gouttes d'eau vers l'extérieur. C'est l'unique espoir, sans garantie de réussite. Aucune.
Bonsoir. Ils n'iront pas sur la Lune, mais on s'en moque. 3 hommes sont perdus dans l'espace, dans une capsule déséquilibrée, et les seuls liens qu'ils ont avec la Terre sont les liaisons radio que les 3 hommes économisent d'ailleurs, car ces liaisons consomment de l'électricité. Au fond, cette catastrophe, tout le monde, chacun d'entre nous y pensait, se disant, un jour ou l'autre, cela arrivera.
Enfermés dans le LEM, Lovell et Zweiger ont un mal fou à contrôler leur trajectoire. À cause de ce fichu module de commande qu'ils traînent comme un poids mort maintenant. Il leur faut 2 heures de lutte pour corriger leur trajectoire. Et Apollo 13 disparaît alors derrière la Lune. Insoutenable suspense, jusqu'à ce qu'il réapparaisse 2 heures après.
Apollo 13, vous pouvez enclencher la poussée.
Reçu.
Le LEM file en direction de la Terre à la vitesse de 8500 km/h, avec une trajectoire bien précise, censée faire entrer le vaisseau dans l'atmosphère avec un angle bien précis. Pas trop plat pour ne pas que le vaisseau rebondisse sur l'atmosphère, pas trop aigu non plus, parce que sinon, le vaisseau va se consumer en moins d'une seconde. Mais avant ça, le risque c'est de manquer d'énergie. Le LEM a des réserves pour descendre du vaisseau vers la Lune et remonter, mais pas plus. Il faut donc économiser l'énergie au maximum. Et là, il n'y a qu'une seule solution. Couper l'ordinateur de bord, couper le système de guidage et couper le chauffage. Ne garder que la radio et un petit ventilateur pour faire circuler l'oxygène. Réduire la consommation à 12 ampères, c'est-à-dire la consommation d'un aspirateur. Sans chauffage, évidemment, la température chute rapidement. Il ne fait que 3 degrés à l'intérieur du LEM. Et ça n'est pas le seul problème. Ils sont 3 à rejeter du CO2. Et le LEM est équipé d'un épurateur, mais il n'est prévu que pour 2 personnes. Alors il commence à saturer. Les voyants d'alarme se mettent à clignoter. Le seuil critique vient d'être franchi. Ils vont mourir tous les 3, asphyxiés.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui la mission Apollo 13 en avril 1970. Le 3e vol de la NASA en direction de la Lune, 9 mois après le premier pas de Neil Armstrong. Une histoire que nous allons débriefer tout à l'heure avec Philippe Hénarejos de la revue Ciel et Espace. Je voulais raconter à l'approche de la Lune, Apollo 13 connaît une avarie majeure. L'explosion en plein vol de l'un de ses réservoirs d'oxygène. Les 3 astronautes parviennent alors à se réfugier dans le LEM, le module qui devait permettre la descente de 2 d'entre eux vers la Lune et qui est autonome en oxygène. L'idée est de retourner vers la Terre à bord du module lunaire. Mais à 3, dans une capsule prévue pour 2, l'air est vite saturé de gaz carbonique. L'épurateur n'évacue pas assez de CO2. Ils sont tous les 3 en danger de mort imminente. Il y a bien des épurateurs de rechange, ceux du vaisseau principal. Mais ces ballots, ils sont carrés alors que ceux du LEM sont cylindriques. Alors il faut les modifier. Il faut trouver un moyen de les adapter. Et là, c'est MacGyver. Il faut faire avec ce qu'on a sous la main. Leur slip, leur t-shirt, le carton de leur manuel de vol, et puis de l'adhésif, du scotch. Je peux vous dire qu'au sol, les cerveaux de la NASA sont en surchauffe. Il faut adapter ces épurateurs de rechange carré au format cylindrique des épurateurs du LEM. C'est pas de la science de haut niveau, c'est de la technologie de collégien. C'est comme un meuble Ikea à qui il manquerait des pièces. C'est du bricolage. Mais ça marche. La jauge qui indique le niveau de gaz carbonique se met à chuter. Ouf. Douze heures après l'explosion du réservoir d'oxygène, le LEM a parcouru la moitié de la distance qui le sépare de la Terre. Mais là, nouveau problème. La trajectoire. La trajectoire s'aplatit. Et si ça continue comme ça, s'ils abordent l'atmosphère terrestre dans cet état, le vaisseau va rebondir sur les premières couches de l'atmosphère. Il va être expédié dans l'espace, à tout jamais.
Apollo 13, Apollo 13, vous allez devoir revoir votre trajectoire. En pilotage manuel.
En pilotage manuel. Une manœuvre comme celle-là ne peut se faire que dans un laps de temps très court. 14 secondes maximum. Avec des moyens préhistoriques, ils vont devoir se repérer à l'œil avec un viseur, genre viseur de fusil à lunettes. Une croix pour viser la Terre. Les réacteurs sont enclenchés. C'est le commandant Lovell qui est aux commandes. Le vaisseau part dans tous les sens. Il frétille comme une anguille. Swigert fait le décompte.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
À zéro, ça passe. À zéro, ils ont réussi. C'est un miracle. Le LEM est sur la bonne trajectoire. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Dans un jour et demi, ils vont rentrer dans l'atmosphère. Mais pas à bord du LEM. Le LEM ne résisterait pas. Ils vont devoir retourner dans le vaisseau principal qui a encore juste ce qu'il faut de réserve d'oxygène. Avec un énorme doute. Quelle est l'étendue des dégâts? Ils n'en ont aucune idée. Le bouclier thermique du vaisseau est peut-être complètement à chaise. Ils vont peut-être se désintégrer en entrant dans l'atmosphère, comme une étoile filante. Et puis, les trois parachutes qui sont censés accompagner leur descente vers la mer. Avec ce froid, est-ce qu'ils vont fonctionner? S'ils ne fonctionnent pas, ils vont se fracasser à 500 km/h dans le Pacifique. Maintenant, ça y est, la Terre est proche. Les trois astronautes empruntent le tunnel et réintègrent le vaisseau principal et ils larguent le LEM. Par les hublots, ils le voient s'éloigner dans le vide spatial.
« Adieu !»
dit Lovell.
« Merci !»
Et le 17 avril, à midi, Apollo 13 s'apprête à entrer dans l'atmosphère à 40 000 km/h. À Houston, on retient son souffle. Comme prévu, ils vont les perdre pendant 3 minutes. Le contact radio avec l'équipage sera coupé. Immense angoisse. 1 minute. 2 minutes. 3 minutes. 4 minutes. Toujours rien. Fuck. Les contrôleurs de Houston sont suspendus à leur radio. Et puis soudain...
Houston pour Apollo 13.
La voix du commandant Lovell. Ils sont en vie.
Voilà, les deux parachutes de stabilisation, 2 sur les 3 se sont ouverts et il reste à attendre que le troisième s'ouvre. On va avoir la confirmation très rapidement. Ce sont des petits parachutes de stabilisation. L'important, c'est qu'ils s'ouvrent et qu'ils extraient les gros parachutes, les 3 gros parachutes. Voilà, nous voyons la cabine et dans la salle de presse de Houston, on applaudit. Enfin, eh bien, cette récupération des 3 hommes en perdition dans l'espace.
Et dans le ciel au-dessus du Pacifique, les 3 parachutes descendent tranquillement, lestés par le module de commande qui amerrit à 12h07. Un hélicoptère de l'armée survole déjà la zone. Un bateau de la Navy est là. Ils sont sauvés.
Oui, ça y est, le sas est ouvert. On voit la porte qui s'est rabattue du côté droit, du côté gauche plus exactement de la cabine. Et voilà, un premier astronaute sort, je ne sais pas qui c'est. Il est en combinaison blanche. Il a fait un saut très souple d'abord. Et il est maintenant assis très tranquillement dans le bateau pneumatique sous la surveillance de son ange gardien, l'un des quatre hommes grenouilles. Et va avoir lieu la fameuse opération amusante, cette récupération par panier à salade. Et je dois dire que les trois astronautes maintenant doivent être très contents de respirer cet air légèrement salé qui est celui du Pacifique à cet endroit.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui la mission Apollo 13, la troisième mission de la NASA américaine vers la Lune, qui a lieu en 1970, neuf mois après le premier homme marchant sur la Lune, et qui vire au fiasco après l'explosion d'un réservoir d'oxygène. Les astronautes sont donc contraints de se réfugier dans le module lunaire qui était prévu pour la descente vers la Lune et qui a l'avantage d'être autonome en oxygène. Et c'est à bord de ce LEM qu'ils font le retour vers la Terre en profitant de l'énergie gravitationnelle de la Lune. Et je suis avec Philippe Inarijos, rédacteur en chef de la grande revue Ciel et Espace, qui connaît tout ça par cœur. Philippe Inarijos, est-ce qu'on sait ce qui a provoqué l'explosion de ce réservoir, le deuxième réservoir d'oxygène?
Sur le moment, on ne comprend rien, ni à Houston, ni à bord.
On voit rien par le hublot.
La télémétrie donne des chiffres complètement incohérents. On met du temps à savoir, 5-10 minutes, à savoir exactement quel est l'état. Mais il faudra attendre après le vol, longtemps après le vol,
parce qu'il redescend,
savoir ce qui
le vaisseau.
Oui, enfin, quand la télémétrie peut être analysée.
Oui.
Et ensuite, pendant les semaines et les mois qui ont suivi le vol, ouais, on peut analyser tout ça à tête reposée.
Là, il y avait un trou béant ou pas?
Oui, c'est une explosion. C'est-à-dire, il y a le cylindre que constitue le module de service qui est collé à la capsule conique.
Hein. Oui.
Il fait à peu près 8 mètres de long. Et il y a 4 cylindres énormes comme ça qui font presque toute la longueur du vaisseau. Et il y en a 2 qui sont des réservoirs d'oxygène. Cet oxygène, il sert pour alimenter des piles à combustible qui sont en gros des batteries complexes qui marchent avec de l'hydrogène. Donc, c'est les 2 autres, oui, cylindres. Et donc, tout ça, on met en contact, ça fait de l'électricité. C'est très bien. Donc, il y a un de ces réservoirs qui explosent. Alors pourquoi est-ce qu'il explose? Ça remonte à loin en fait. Parce qu'il faut savoir que ce réservoir d'oxygène là, il n'était pas sur le vaisseau Apollo 13, il était d'abord monté sur le vaisseau Apollo 10 qui, oui, a volé un an plus tôt. Et quelques mois avant le décollage, il y a un changement dans le design. On enlève ce réservoir pour le changer, pour le remplacer par un autre. Et dans l'opération, on le fait tomber. Alors pas beaucoup, 5 cm. Et il s'endommage un petit peu. Donc on répare et on refait des tests de pressurisation, etc. Et le constructeur, il y a une note du constructeur qui n'est pas arrivée à la NASA sur le voltage à employer pour faire les tests. Et en gros, les tests ont été effectués avec un voltage supérieur à ce que les câbles électriques pouvaient supporter. Résultat, l'isolant des fils électriques s'est craquelé. Mmh. Et ça, personne ne l'a vu, les jauges étaient bloquées, en fait, ça, tout indiquait que tout se passait bien. Et donc, ce réservoir était bon pour le service et a été monté sur Apollo 13.
Et la morale de cette histoire, c'est qu'au fond, il ne faut jamais faire d'économie. On aurait dû jeter ce réservoir et rebâtir
peut-être
un réservoir neuf.
Peut-être,
quoi, c'est
en
ça
effet, parce qu'il avait posé des problèmes, c'est pour ça qu'on a refait des tests, on n'arrivait pas bien à le vider, etc. Il y avait des petits soucis, mais a priori, tout indiquait que c'était réglé. Et donc, il y avait ce défaut dans la transmission d'informations. On a fait faire des tests à ce réservoir avec un voltage supérieur. Donc les fils électriques étaient déjà presque dénudés, on va dire. Ouais. Et donc, à force de fonctionner, eh bien, quand il a fait le brassage, Swigert, ouais, il y a eu un arc électrique qui s'est formé. C'était de l'oxygène.
L'oxygène, ça
flamme très bien. Et le téflon qui est entouré sous cette atmosphère sous pression a vraiment pris feu très fort. Et la température est montée, c'est pas arrivé d'un coup. Et à un moment donné, le réservoir a explosé. Évidemment, avec les conséquences collatérales que ça peut avoir, c'est-à-dire que ça a éventré d'autres systèmes du vaisseau, ça a mis HS deux batteries, deux des trois batteries, et ça a mis HS apparemment des conduites qui venaient du deuxième réservoir d'oxygène. Et là, les astronautes ont commencé à voir que finalement, ils croyaient qu'ils avaient encore un réservoir, et celui-là fuyait. Alors assez lentement, ils avaient des heures devant eux, mais ils savaient que c'était inéluctable.
C'était inéluctable. L'hypothèse d'un repli dans le problème. Est-ce que c'est une improvisation du moment ou est-ce que c'est une hypothèse qui avait été travaillée avant?
C'est une improvisation à partir d'une hypothèse qui avait été travaillée des années plus tôt, 6 ans plus tôt.
Mais pas pour cette mission?
Non, pas pour cette mission.
Lovell, il n'a pas travaillé cette hypothèse?
Non, pas forcément. Ils ont peut-être pensé, ils l'ont peut-être regardé comme ça, mais ils avaient énormément de choses à travailler. Et parmi les contrôleurs de vol, il y en avait un qui se souvenait de ça, et parmi les gens qui avaient conçu le module lunaire, puisque tous les gens qui ont fabriqué le module lunaire de la société Grumman ont été appelés aussitôt, en pleine nuit, pour aller au secours d'Apollo 13. Et certains se rappelaient que 6 ans auparavant, on leur avait demandé si le module lunaire pourrait servir de canot de sauvetage en cas de défaillance du module de service, ce qui était le cas. Alors ils avaient un peu designé leur vaisseau pour ça, mais ça n'avait pas été très poussé. Mais c'était envisagé, donc ça, c'est quelque chose qui était dans les tablettes, mais il a fallu dépoussiérer tout ça, il a fallu que des ingénieurs se souviennent de ce qu'ils avaient imaginé à ce moment-là, et qu'on élabore et qu'on improvise à ce moment-là le plan véritable.
Alors la séquence du filtre qu'on remplace, puisqu'il n'est pas prévu pour purger le CO2 de 3 astronautes, mais de 2, il ne devait descendre sur la Lune qu'à 2, est une séquence qui donne l'impression quand même d'un archaïsme du matériel extraordinaire. Ça se répare à la MacGyver.
Alors, le programme Apollo est une réussite incroyable, mais quand on le regarde, quand on étudie ce qui s'est passé chez les industriels qui ont fabriqué tous ces vaisseaux, y compris le module lunaire, on voit qu'il y a eu des parts très humaines de tâtonnement, d'improvisation.
Parce que c'est dingue que les filtres n'aient pas le même format.
Eh bien, ça s'explique par le fait que ce ne sont pas les mêmes contractants privés qui ont fabriqué le module de commande et le module lunaire.
Mélenchon serait là, il dit « Ah, le capitalisme
!» Ils ne se sont pas parlé, les deux sociétés ne se sont pas parlé. Chacune a développé son système.
Au fond, il n'y avait de pièces de rechange que pour les filtres du vaisseau principal.
Quoi. Absolument.
Ouais. Ce qui est enfin, du
module de commande.
Du module de commande. En règle générale, d'ailleurs, se dégage une impression quand même de, non pas d'archaïsme, mais d'immense simplicité. Ça n'est juste qu'une impression?
Oui, c'est une impression parce que ce vaisseau Apollo était d'une complexité incroyable.
Oui.
C'était très malin sur le plan de l'ingénierie, mais il est constitué de plusieurs millions de pièces. Il y a aucun des astronautes qui étaient à bord ne connaissait l'ensemble du vaisseau. Aucun des techniciens qui étaient au sol ne connaissait l'ensemble du vaisseau. Bien sûr, dans les grandes lignes, moi je peux vous le raconter, mais ça va être très vulgarisé, alors là, pour le coup.
Ouais.
Mais il n'y a personne dans le programme Apollo qui connaissait l'ensemble de cette machinerie. Et il y a eu plein d'exemples dans les autres missions Apollo, avec plein de petits problèmes comme ça, où il y a toujours eu quelqu'un, un ingénieur ou même un astronaute qui disait « Ah, moi je sais ». Mais la solution, même le directeur de vol ne l'avait pas. Donc c'était très complexe et les astronautes faisaient beaucoup de choses à la main. Et là, on voit que dans une situation de stress, ils ont été capables de calculer des trajectoires à la main. Lovell, il prend son crayon,
une gomme,
et il fait ses calculs. Et comme il est un peu fatigué, il a froid, parce qu'il n'y a plus de chauffage, il téléphone à Houston, il dit « Les gars, vérifiez quand même que j'ai pas fait une erreur ». Et là, il y a 4-5 ingénieurs qui prennent leur crayon et leur gomme, pas la calculatrice. Ils font ça à la main et tous valident son résultat. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'il n'a pas fait d'erreur, en fait.
Ouais. Aujourd'hui, on leur donnerait à faire le même calcul, pas un n'y arriverait.
C'est l'ordinateur. Ça serait terrible.
Ouais. On va marquer une pause et puis on va se donner comme objectif de parler de l'avenir, parce qu'il est donc question de retourner assez rapidement sur la Lune, ce dont on parle depuis des décennies, mais il semble que ça se profile. À tout de suite.
Europe 1,
on de la traconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui la mission Apollo 13, cette fameuse mission de la NASA américaine vers la Lune en 1970, qui vire au fiasco après l'explosion d'un réservoir d'oxygène. Et il a fallu beaucoup d'astuces, on vient de le raconter, pour ramener cet équipage vers la Terre. Ça a fonctionné. Il est question, Philippe Hénarejos, rédacteur en chef de la revue Espace, de retourner prochainement sur la Lune pour établir une base qui servira à la conquête de Mars. Est-ce qu'on a des dates précises? Et qui va y aller? Est-ce que les Américains iront les premiers? Les Japonais, c'est ça, sont sur le coup?
Oui, pour l'instant, c'est un projet qui est... Enfin, on ne peut pas parler de projet au sens où il n'y a pas de programme établi, mais ça va venir. C'est-à-dire que la NASA... sous l'impulsion des différents présidents américains qui se sont succédés ces dernières années, visait Mars. dit la Lune, on y a déjà été, on va aller vers Mars. Bon, une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit que on fait les calculs, ça coûte cher, c'est long, c'est très 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 coûteux et c'est très dangereux et il y a beaucoup de développement à faire, ce qui fait que tout ça est très long et très cher.
Donc la Lune, c'est pour patienter.
Il se trouve que voilà, ça ressort des tablettes. Le président George Bush l'avait relancé, Obama l'avait annulé. Mais entre-temps, la NASA a construit la fusée, elle a survécu la fusée à ces annulations, le fameux Space Launch System, qui est une fusée pour nulle part, dit-on, puisque on construit une fusée géante, plus grosse que la Saturne V, plus puissante, mais on ne sait pas encore où elle va aller, il n'y a pas de programme d'exploration derrière. Et donc là, on essaie d'en trouver un en 2024 ou 2028, selon qu'elle est prolongée ou non. La Station Spatiale Internationale, ouais, avec tous les partenaires des Américains, va s'arrêter, elle va être atteinte par la limite d'âge. Et donc, qu'est-ce qu'on fait derrière ? Les États-Unis tiennent beaucoup à ce que son industrie aérospatiale continue à avoir
le leadership.
Donc, il faut un autre projet. Eh bien, le projet à minima, c'est la Lune. C'est pas très loin.
Ça fait modérément rêver.
Voilà, ça fait quand même. On donne quand même l'impression, puisque ça fait quand même bientôt 50 ans qu'on n'est pas retourné sur la Lune, on donne l'impression de quelque chose de nouveau. On a un peu oublié qu'on y a été. Et c'est pas très loin. On voit avec l'exemple d'Apollo 13 qu'en cas de problème, même grave, on peut rapatrier les gens dans un délai raisonnable. Alors que sur Mars, c'est quand même 6 mois. Là, on parle de quelques jours. Mmh. Alors que sur Mars, c'est 6 mois ou un an pour revenir. Donc, faut être vraiment autonome. Et donc, on peut avoir très peu de développement technologique. Finalement, ce qui sert pour fabriquer la station spatiale, c'est la même technologie pour fabriquer une station orbitale autour de la Lune, parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc, on va avoir les mêmes contractants privés de la NASA qui vont faire un module de propulsion, un module d'habitation, un module pour l'énergie. Et puis, il y a des nations ou des agences qui sont intéressées par la Lune aussi. L'Agence spatiale européenne semble dire que ce serait intéressant d'aller sur la Lune. La Chine semble a un programme lunaire.
C'est le Japon, c'est la Chine.
Et donc, entre ceux qui veulent aller sur Mars et ceux qui veulent aller sur la Lune, tout le monde peut avoir un dénominateur commun en se disant, là-bas, on va tester à peu de frais ce qui va nous permettre d'aller sur Mars. Et puis, les autres vont en profiter pour aller sur la Lune, ça se fera certainement.
Merci beaucoup Philippe Hénard-Rigelos.
Et merci à vous Christophe Ondelatte. Demain, vous nous ferez revivre une autre aventure, toujours sur Europe 1, dans Ondelatte raconte la dernière course de Nicolas Vanier avec ses chiens de traîneau. L'Edith Arrowed 2017, une course mythique qui se déroule tous les ans en Alaska. 1200 km de course au rythme de 200 km par jour, par moins de 40 degrés. Ondelatte raconte, c'est à 14h.